Voilà donc, bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors aujourd'hui, nous allons tourner ensemble envers d'autres catégories d'abuseurs. Bien sûr, cette catégorie est privilégiée à son tour par le fait d'être des représentants de la loi, des personnes qui sont formés en droit, et d'ailleurs c'est à eux la tâche de défendre les accusés devant les tribunaux concernés. Donc ils sont justement là pour plaider le pour et le contre. Dans cette catégorie, d'ailleurs hautement respectée par l'ensemble des citoyens, on trouve aussi, et malheureusement comme partout, des bons et des moins bons, des inappropriés à la fonction, des abuseurs, des négligents, des escrocs. Imaginez-vous, il y a même des drogués, des alcooliques, des fraudeurs, des trafiquants de drogue, des falsificateurs de preuves, bref, une simple recherche et vous allez découvrir que ces gens ne sont pas exclus de notre règle. Une règle qui nous rappelle que tout le monde est exposé à commettre des erreurs graves et moins graves, bien sûr. Je me souviens aussi encore de cette personne qui est venue me voir pour me dire qu'elle était même violée par un avocat et peur que personne ne l'avait cru. Alors moi, je l'avais cru et avec raison. Vous comprenez que des personnes occupent des postes importants. Là, la gravité de l'erreur peut se doubler si elle se ne multiplie pas par un chiffre inconnu. Maintenant, cette catégorie de personnages qu'on vise aujourd'hui, qu'on les appelle avocats, défenseurs, magistrats, procureurs, hommes de loi ou bien d'autres, ces personnes-là ont un devoir, un seul devoir, et c'est celui d'être juste. Alors en définitive, il y a parmi eux ceux qui sont presque irréprochables, sérieux et surtout honnêtes. Ils ne sont pas nombreux, il y a bien sûr d'autres qui n'ont pas le souci ou un souci que celui de ramasser de l'argent et s'enrichir sur le dos des victimes. De cette catégorie, on trouve un grand nombre. Puis, il y a ceux qui sont négligents, parfois même très négligents. Alors, pour ces gens-là, tout est calculé à la minute et perdre du temps dans des procès qui durent des heures ou des jours, ce n'est pas dans leur calcul. Ces avocats-là, donc, sont des marchands. Ils vont pousser, conseiller, si vous voulez, surtout des innocents, appeler des coupables pour régler leur dossier le plus rapidement possible. Je connais aussi personnellement certains avocats, comme par exemple, je vous cite à titre d'exemple surtout, Claude Archambault, dans un cas que je connais bien. Il ne consulte même pas le dossier de son client. C'est des stagiaires qui vont lui faire un résumé à la cour. Imaginez-vous à la cour, qui prendra connaissance des dossiers de son client. Si vous êtes un homme de prestige, un politicien en défaut, un criminel à cravate, une personnalité connue, cette catégorie d'avocats vont passer une nuit blanche et même plusieurs pour mieux vous défendre. Derrière cet exercice, bien sûr, il y a là la quête et la soif d'un vice difficile à soigner. Maintenant, revenons à cette théorie qu'un magistrat devra être juste. Le mot juste est un mot pesant. Ce n'est pas tous les magistrats qui peuvent le porter. Être juste dans un monde qui n'a que le prestige et l'argent comme valeur capitale devient un peu difficile, malheureusement, à notre quête. Encore, est-ce que c'est juste de défendre des vrais criminels, des assassins, et tout faire pour les acquitter de leur crime? Quel est le sentiment d'un avocat sachant très bien qu'il vient de libérer un criminel, un assassin, un danger pour d'autres personnes? J'aimerais bien connaître aussi ce sentiment. Est-ce que l'empire de l'argent s'est investi même dans les plus profonds des personnes pour les empêcher de réfléchir, de vivre peut-être normalement? Défendre un criminel et l'acquitter de son crime est une chose, mais conseiller, pousser, guider un innocent de plaider coupable, me semble, c'est le pire qui peut arriver dans une cour. Et pourtant, ici au Québec et un peu partout, c'est le cas. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, si ça vous arrive, il ne faut jamais plaider coupable devant n'importe quelle instance si vous êtes innocent. Maintenant, et j'en suis certain que la plupart des auditeurs qui nous écoutent partagent cet avis, aller à la rencontre maintenant, aujourd'hui, d'un avocat est devenu presque traumatisant. Personnellement, j'avais eu une rencontre avec quelqu'un du barreau qui me l'a affirmé, que le barreau n'a pas tout le contrôle nécessaire et encore moins la capacité de vérifier le travail de ses avocats. Il reste beaucoup à faire et la faille demeure bien sûr immense. Donc cela ne veut pas dire que vous ne devrez pas continuer à déposer vos plaintes au barreau du Québec. C'est justement le nombre des plaintes qui va motiver le barreau d'être plus sincère et plus sévère envers les avocats qui sont reconnus fautifs. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne qui, soi-disant, fait la surveillance civile de nos institutions civiles pour prévenir et dénoncer les rabis de pouvoir. Mon collègue Roland Cazès, malheureusement, est absent aujourd'hui, donc il ne participera pas dans le débat de cette émission. Roland, si vous êtes à l'écoute, l'équipe vous salue. Mon invité ce matin, c'est une personne qui a justement quelques difficultés avec son avocat. Il a souhaité partager avec vous cette expérience et dénoncer en même temps l'attitude de son avocat envers le traitement de son dossier. Alors, Monsieur Sylvain Paquette, après avoir perdu sa cause devant les tribunaux, il reproche aujourd'hui à son avocat le fait d'avoir agi sans son consentement. Il reproche à son avocat de l'avoir induit en erreur. À la cour, il y avait sa version et la version de son avocat. Imaginez-vous, sa version était rejetée et celle de son avocat est maintenue. Après notre thème musical, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons céder la parole justement à notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Sylvain Paquette, pour appuyer sa cause et tenter de nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé justement dans son dossier. Restez à l'écoute. Après ce thème musical, on va revenir avec notre invité d'aujourd'hui.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, basse obscène et ça n'a eu qu'une.
Oh oui, voilà, donc rebonjour chère auditrice, chers auditeurs. Alors vous êtes en direct avec votre émission du mouvement Action Justice, un organisme pour... Je suis complètement perdu là. Donc aujourd'hui nous avons, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et j'ai, comme je l'avais déjà cité, j'ai devant moi Monsieur Sylvain Paquette. Merci. Bonjour Monsieur Sylvain Paquette.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, je vous remercie surtout à vous de me permettre d'élaborer, de démontrer que l'injustice existe même dans nos tribunaux.
Voilà, donc directement, je vais quand même... vous savez que tout le monde, ils sont là, les auditeurs, ils sont là pour vous écouter un petit peu votre version, parce que je sais que vous avez passé à travers plusieurs instances et que vous avez malheureusement perdu. C'est ça, ce que je ne me trompe pas, c'est exact.
Exactement.
Et donc, pour revenir un petit peu, vous êtes un résident de Terrebonne, vous habitez là-bas depuis 17 ans, depuis...
Oui, depuis 17 ans que 17 ans. J'ai ma résidence. Et ça fait 28 ans que j'étais avec ma conjointe, Mona Tardif.
Donc, vous êtes...
Une femme en or.
Alors, voilà, on le salue de là. Donc, et vous êtes, bien sûr, vous travaillez pour votre compte, si je me trompe.
Oui.
Vous faisiez quoi comme travail, monsieur?
Moi, je fais des planchers en époxy. À l'époque, quand j'ai eu mon accident, le 23 septembre 2003,
oui.
Ça faisait 11 ans que j'étais à mon propre compte.
Vous travaillez à votre propre compte depuis... Et ça marchait bien. Ça marche très bien.
Oui.
OK. Alors, en revenant un petit peu à cette date-là, vous avez eu un contrat pour faire un plancher de...
Un plancher en époxy au Nutrition Fitness Cardio sur le boulevard Saint-Martin à Laval.
Ah, vous l'avez accepté.
Oui.
Il y avait des conditions.
Oui.
Parmi les conditions, il y avait quoi?
Parmi les conditions, c'était... moi, quand je suis arrivé sur place faire la soumission, c'est une mezzanine. Une mezzanine, c'est un deuxième étage, si on veut. Il y a un trou dans le plancher. Fait qu'on voit le rez-de-chaussée. Puis à ce moment-là, moi, il n'y avait pas de...
Et la hauteur, c'est combien, là?
16 pieds de haut.
16 pieds de haut, OK.
Oui. Et il n'y avait pas de protection. Il y avait des protections temporaires en bois.
Mais quand vous êtes arrivé sur le lieu, est-ce que vous avez aperçu qu'il y avait vraiment... Il s'agit d'une mezzanine qui était... Où il y avait l'ouverture et tout.
Oui, il y avait l'ouverture et tout. Moi, il fallait que je fasse ce plancher-là.
Oui.
Puis, comme je vous dis, il y avait des rampes temporaires en bois.
Oui.
Mais moi, je fais des planchers. Fait que des rampes temporaires en bois qui sont vissées au plancher, ben, je peux pas faire le plancher si les rampes sont là.
Oui.
Le propriétaire, M. Podvin m'avait dit à l'époque, inquiète-toi pas, mais que tu viennes, les rampes de métal vont être installées.
Donc, il vous a quand même avisé comme quoi, une fois que vous allez commencer, ça sera il va corriger la situation.
Oui.
C'est ça, voilà. Alors, vous arrivez pour travailler.
Moi, j'arrive le 23 septembre pour travailler, puis je m'aperçois qu'il manque une rampe de métal.
En 2003, on parle de 2003.
Hein? Ouais, en 2003. Le 23 septembre 2003, qu'il manque une rampe de métal.
Oui.
Le propriétaire avait mis un câble. Fait que là, moi, je dis, OK, les rampes sont où? Ah, quand sont venus pour l'installer, elles étaient trop courtes, il en manquait une. Ils vont revenir la semaine prochaine. Parfait, moi, je vais revenir la semaine prochaine. Ah, non, Sylvain, tu peux pas. Faut fasse mon plancher, j'attends une livraison des États-Unis et ainsi de suite.
Et vous l'avez dit qu'il y a quand même, vous l'avez mentionné qu'il y a un risque.
Oui.
Vous l'avez mentionné un risque.
Oui, ben,
il a insisté que vous continuez à travailler cette journée-là.
Moi, j'avais dit, écoute, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus sécuritaire, mais moi, dans ma tête, il y a un câble. Fait que je me dis, moi, dans ma tête, si je recule, ben, il y a un câble qui est en arrière de moi, qui va me dire, ben, va pas plus loin.
Oui.
Bon, est-ce que j'ai passé par-dessus le câble? Est-ce que j'ai passé en dessous? Est-ce que le câble a décroché? Je me souviens pas de l'accident.
Alors, vous, tout ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui ou affirmer, c'est que vous êtes tombé.
Oui.
D'une hauteur de 12.
De 16 pieds de haut.
16 pieds de haut. Et tu te souviens de rien, c'est
non.
ça? Alors, voilà.
Je me souviens avant midi, l'accident est arrivé à 14h10.
Oui.
Je me souviens avant midi, tout ça. Mais à partir de l'heure du midi, je me souviens même pas du restaurant où ce qu'on était mangé. C'était un blackout total.
Mais ça, je comprends. Mais l'accident quand était arrivé, est-ce que c'était vraiment après avoir travaillé une heure, deux heures ou sur le
non, c'est arrivé. On a commencé à travailler. On est arrivé là-bas, il était vers 8h environ.
Matin,
là.
Oui.
Puis on a commencé à travailler vers 9h parce qu'on a discuté de la rampe avec le propriétaire et tout ça. On a commencé à travailler vers 9h. Puis l'accident est arrivé à 14h10.
L'après-midi.
Oui, l'après-midi.
L'après-midi, voilà. C'est-à-dire, j'imagine que vous avez tout essayé, mais je comprends qu'après quelques heures, ça arrive que le câble, il n'a pas bien tenu. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne savez même pas que c'était arrivé.
Non, je ne me souviens pas. Okay. Est-ce que j'ai reculé? Est-ce que j'en ai aucune idée? Mais alors, je me souviens de l'avant-midi.
Alors, vous perdez conscience, oui. Vous se ramassez à l'hôpital, j'imagine?
Oui.
Pouvez-vous nous résumer qu'est-ce qui, que vous avez subi quoi comme blessure?
Oui, j'ai été dans le coma durant 4 jours. J'étais dans le coma 4 jours.
C'est-à-dire que vous avez risqué de mourir?
Oui. J'étais entre la vie et la mort là, pendant 48 heures. Oui. Les médecins ne savaient pas si j'étais pour m'en sortir ou pas.
Voilà.
J'ai eu à ce moment-là 3 fractures de la boîte crânienne, les 2 sinus, la joue droite, la mâchoire, tympan droit défoncé, 3 fractures de l'épaule droite, dislocation de l'épaule, clavicule droite cassée, 8 côtes cassées, dont 4 côtes ont cassé à 2 endroits, poumon droit perforé, 2 vertèbres dans le nuque de fracturé, 1 dans la colonne, à part de tous les dommages internes. Puis moi, depuis ce temps-là, toute la partie gauche de mon corps, de la tête aux pieds...
Fonctionne mal.
Oui, ça fonctionne mal, si on veut. C'est engourdi. C'est permanent, c'est ta vie, il n'y a rien à faire.
Vous ne pouvez rien faire avec ça.
Non, même s'il y aurait une opération au cerveau, il n'y a rien à faire.
Vous êtes quand même chanceux d'être ici aujourd'hui.
Oui. Je sais que je suis conscient que je suis chanceux d'être en vie. Chanceux d'être en vie, mais malchanceux d'avoir été devant la justice.
Ça, je le comprends. Alors, vous êtes resté à l'hôpital un certain temps, j'imagine?
Oui, j'ai resté à l'hôpital durant 9 semaines.
9 semaines. Après ça, vous avez pris votre congé.
J'ai été en congé. J'ai fait de la physio durant près de 2 ans.
Oui. Après l'accident, donc, quelles sont les procédures que vous avez commencé? Est-ce que vous avez y a-t-il des procédures?
Oui, il y a eu des procédures.
Vous poursuivez qui?
Je poursuivais le Nutrition Fitness Cardio à Laval.
Pourquoi?
Parce que le propriétaire n'avait pas mis les protections adéquates. Mais aujourd'hui, on me reproche à moi d'avoir travaillé là. On dirait que c'est le premier fautif qui est jamais fautif.
Mais pourtant, vous êtes en train de me dire aujourd'hui que quand vous êtes rentré à 8 heures du matin, de 8 heures à 9 heures, c'est que la discussion sur cette histoire-là, cette fameuse
On discutait sur la mésanine.
Alors, vous avez même demandé de partir, de revenir le temps qu'elle sera corrigée.
C'est ça.
Et puis, le propriétaire y a insisté.
Il a insisté pour que je reste là.
Mais pourquoi vous n'êtes pas parti pareil? Pourquoi vous avez... Si vous avez vu qu'il y avait un risque...
Vous êtes
un professionnel quand même. Hein?
Oui, mais je ne peux pas dire vraiment que j'ai vu qu'il y avait un risque. Moi, dans ma tête, il y a un câble qui est en haut. Puis je me dis, si je recule, il y a un câble qui est là. Il va dire, va pas plus loin.
C'est ça.
Tu vas tomber dans le vide. Fait que moi, dans ma tête, il y a quand même une protection.
Oui.
Puis oui, j'ai insisté au propriétaire. Puis... Mais je suis quelqu'un qui a un bon cœur. Puis le monsieur était mal pris, puis je voulais l'aider dans sa malchance. Voilà. Mais lui, il a tout fait pour faire le contraire.
Oui. Alors, vous avez commencé par quoi, la procédure?
La procédure, bien là, il y a eu une poursuite au civil qui a été faite le 12 et le 13 mars 2009.
On part de 2003 jusqu'à 2009. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez resté jusqu'à 2008 pour faire?
Bien, c'est des procédures, là, des examens. Là, je ne connais pas toutes les procédures, mais ça a été long. C'est l'avocate qui fait le travail pour ces procédures-là.
Et c'est bien important de préciser que vous avez toujours eu la même avocate depuis le début de l'accident.
Depuis le début, depuis janvier 2004, qui est Mme Nancy Lecomte.
Oui.
C'est tout allé jusqu'au procès jusqu'en 2013. Jusqu'en
2009. Alors, quelles sont les procédures que vous avez commencé à faire?
Ben là, il y a eu une poursuite au civil.
Un civil, oui.
Okay. Le 12 mars, quand on est arrivé au procès, le matin, là, mon avocat, Nancy Lecomte, m'a dit « Ah, M. Paquette, ça va mal. On n'est pas sur le rôle de la journée. » Ben, comment ça? Pourtant, c'est bien aujourd'hui. On a le supplénat.
Vous avez reçu le supplénat et tout.
Oui,
c'est le 12 mars 2009.
2009, que c'était notre date d'audition.
Alors, l'avocate, elle vient vous informer comme quoi vous n'étiez pas sur le...
On n'était pas sur le rôle, qu'il y a eu une erreur du greffier et tout ça.
Okay.
Mais quand j'ai fait sortir le punitif, moi, je dis « Ça, c'est faux. » Parce que le punitif, c'était...
Ça,
le...
on parle de plus tard. Hein? Vous voulez vérifier.
Oui, vérifier.
Le primitif avait bel et bien
était bien sur le rôle de la journée quand que le palais de justice de Laval m'a fait parvenir le primitif.
Est-ce que vous avez une idée pourquoi Maître Lecomte, elle peut vous dire qu'on n'était pas sur le rôle? C'était quoi là? Y a-t-il un motif?
Un motif, c'est que le juge Fournier, Jacques Fournier, qui était notre juge, puis que lui, il n'avait pas fini le procès de la veille.
OK.
Puis je le sais parce que durant mon procès a débuté, au lieu de commencer à 9h le matin, a débuté à 15h13 l'après-midi. Puis durant ce procès-là, il y a 2 avocats qui sont rentrés pour une garde partagée d'enfants. Okay. Fait qu'automatiquement, le juge n'avait pas fini le procès de la veille.
Oui, une chose que je ne comprends pas, si exactement il y avait un prolonger une cause qui a été déjà la veille. Pourquoi mettre alors quand elle a pu mentir, si vous voulez dire. Elle a pu vous dire simplement que
j'en ai aucune idée.
Vous comprenez ce que je dis?
Je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire.
Elle a pu, mais ça change quoi si elle a pu vous dire, écoute Monsieur Paquette, aujourd'hui le juge n'a pas le temps pour nous. Ça, on n'arrivera pas peut-être. Vous comprenez? Et ça sera pour demain ou après-demain.
Ouais.
Pour vous, est-ce que c'est volontaire?
D'après moi, oui, c'est volontaire. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont eu à le parler avec la partie adverse? D'un règlement sans que je sois au courant au préalable.
Ça, vous savez comment? Vous savez qu'elle avait parlé avec la partie
adverse?
Ben
parce que le maître Marie-Ève Vizina, qui était la partie adverse,
oui.
a adressé une lettre, parce que j'ai porté plainte contre elle, effectivement,
oui.
Parce qu'elle a adressé une lettre le 30 janvier 2012.
Alors, on revient juste au 12. On va aller étape par étape.
Oui.
Okay? Donc, le 12, là, vous êtes pas sur le rôle. Et maître, elle vous demande de partir, revenir demain, ou elle vous demande quoi?
Là, elle dit, écoutez, on souhaite qu'on attend,
oui.
ou on va revenir, on a une nouvelle date d'audition qui va être juste dans 6 mois.
Okay. Ça, c'est le 12 mars.
Oui, c'est le 12 mars.
Et vous avez répondu quoi?
Fait que, ben, je dis, écoute, on est là, on va attendre. Mais vu qu'on est ici, on va attendre. Mais là, on me dit, c'est pas sûr qu'on va passer aujourd'hui.
Okay.
Bon, en fin de compte, on est passé à 15h13 après-midi.
OK. Quand vous êtes passé, vous êtes passé devant le juge,
le juge
Fournier, monsieur
ouais.
Maître Fournier, oui.
Oui. Le tout, au total, a duré mon interrogatoire, contre-interrogatoire et l'interrogatoire de mon employé que j'avais cette journée-là, monsieur Jacques Poulin, le 23 septembre 2003.
Ah.
Contre-interrogatoire, le tout a duré 77
minutes.
Après 77 minutes, le juge Fournier, sans faire témoigner la partie adverse, a conclu que tout était de ma faute.
Ça veut dire, vous avez écouté juste votre version.
Ouais.
C'est pas votre faute, il a pas conclu votre faute.
Il a dit que ma faute était plus lourde. Dans le meilleur des scénarios.
De ne pas avoir prendre les, c'est-à-dire les.
Ne pas prendre le temps d'écouter la partie adverse, d'étudier les faits.
Mm-hmm.
Puis lui conclut que ma faute était la plus lourde. Dans le meilleur des scénarios.
Mais revenons dans ça, il fait référence à l'accident.
Oui.
Comme quoi vous n'avez pas pris vos précautions. Ou,
c'est ça.
C'est ça.
Comme quoi que je suis un adulte, puis c'est moi qui connais la toxicité de mes produits, puis que je suis un adulte.
Alors vous avez senti un échec sur le coup, quoi.
Ben, quand que moi j'ai lu la transcription audio, je l'ai fait faire un peu plus tard, là,
ouais.
après ça. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment qu'on peut juger de cette façon-là?
Non. Ça, c'est pas grave. Vous n'étiez pas d'accord.
Non.
Le juge, c'est son opinion, sa version.
Ouais.
Je pense que vous pouvez aller en appel. D'ailleurs, ce que vous avez fait. Mais cette journée-là, votre avocate, elle a fini comment l'histoire, là, cette journée-là? Le 12 mars 2019.
Le 12 mars, à la fin de la journée, ils sont retournés voir le juge en chambre privée.
Privée. Oui.
Elle et maître.
Les deux
avocates, Marie-Ève Vizina,
oui.
sont retournées voir le juge.
Oui.
Puis au retour, elle dit: Ah, monsieur Paquette, le juge Fournier est borné. On va avoir toute une côte à remonter pour faire valoir la responsabilité du propriétaire.
Et ça, c'était clair pour vous.
Oui.
OK, parfait. Et là, elle vous demande de quoi? De revenir demain ou de partir?
Oui, qu'on va revenir. Puis là, à un moment, il était tard. Il y a même un gardien de sécurité
oui.
qui nous a demandé de quitter les lieux.
Parfait. Alors, voilà, vous quittez.
On quitte. On revient le lendemain matin.
Vous revenez le matin.
Là, le 13 mars, à notre tour.
Vous êtes toujours devant le juge, l'honorable juge Fournier.
Oui, mais là, on n'est pas devant le juge encore. Quand on est arrivé le matin
oui.
au palais de justice, là, mon avocat m'a dit: Ah, monsieur Paquette, ça va mal. Le juge Fournier est borné. Il veut rien savoir. La partie adverse, ça t'offre 5 000 $. Alors que ma poursuite est 280 000.
Vous poursuivez, c'est vraiment. Vous poursuivez pour 280 000.
Oui.
Et là, il vous propose 5 000 $.
Oui, il propose 5 000 $. Là,
ça, c'est la partie adverse qui vous propose 5 000 $.
Ouais.
Et vous, pour les soins que vous avez, vous avez payé combien? Là? Je sais que vous avez fait...
Au total, là, sans tout compter, je vous dirais...
Est-ce que vous avez sorti déboursé de votre argent?
Au-dessus de 6 000 $. Là.
Jusqu'à 6 000 $. Alors là, la partie adverse, il vous a... pourquoi il vous propose 5 000 $?
Parce que selon les propos du juge Fournier, que ma faute est plus lourde. Sans que le propriétaire vienne témoigner que tout est de ma faute.
Oui.
Fait que,
mais vous avez pu perdre, donc pourquoi l'adverse, la partie adverse vous propose 5 000 $?
Je ne sais pas.
Hein?
Pour acheter la paix. Puis moi, je me dis, pour acheter la paix, pourquoi m'offrir... Si Maître Vizina est convaincu que son client est innocent,
oui.
il n'y a aucune responsabilité, pourquoi m'offrir 5 000?
Oui.
parce qu'elle avait acheté à paix.
Si vous avez pleuré, vous risquez de payer 18 000 $, je m'imagine.
Oui, c'est ça. C'est que là, le 13 mars, là, Maître Lecomte a dit, écoutez, on peut continuer le procès, M. Paquette.
Oui.
Mais si on continue le procès que vous perdez, vous allez payer les frais de l'avocate à partie adverse qui sont déjà à plus de 18 000.
Oui.
Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ma poursuite est tout près de 300 000. Le propriétaire n'a jamais témoigné. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'elle dit, écoutez, prenez quelques jours pour y penser et on se rappelle.
C'est ça le c'est
ouais.
Ça le.
Ouais. Nous, on est quittés, puis Maître Lecomte, Nancy Lecomte, j'ai la transcription ici audio,
oui.
Qui s'est fait le 13 mars. Moi, j'étais pas présente devant le juge.
Et vous pouvez nous lire le paragraphe.
Oui. Maître Nancy Lecomte, elle dit, non, j'ai fait quitter. Ça s'est fait à grand contre-cœur, je vous dirais.
C'est-à-dire, elle vous a demandé de quitter.
Oui, elle m'a demandé de quitter le palais de justice.
Oui.
Et ensuite, le juge dit, mais j'aurais voulu expliquer. Maître Nancy Lecomte, elle réplique, elle dit, on ne voulait pas qu'ils soient en présence l'un de l'autre. Donc, si on dit on voulait pas, ça inclut Maître Vézina.
Les deux avocats.
Oui. On voulait pas que je sois en présence du propriétaire, M. Steve Potvin.
Alors, vous êtes parti, j'imagine. Et j'imagine qu'eux, ils ont resté, les deux ont discuté ensemble.
Les deux avocats sont restés au palais.
Mais vous, à ce moment-là, vous n'avez jamais accepté ou donné l'accord.
Non.
Pourquoi vous acceptez les 5 000 $
offertes? Non. C'est une offre qui est complètement ridicule.
Ah, c'est parfait. Alors, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Qu'est-ce qui est arrivé?
Puis là, moi, la seule chose que je sais,
est-ce que vous êtes revenu le 14 ou non?
Non.
Est-ce que votre avocate, elle vous a dit, restez trois quelques jours, réfléchissez à ça et vous nous retournez l'appel ou c'est quoi?
Oui, là, mon avocate, le 13, on me dit, écoutez, M. Paquette, prenez quelques jours pour penser à ça.
Réfléchir.
Puis on se rappelle. Pour réfléchir à ça, on se
rappelle. C'est ça les derniers mots?
Oui.
Okay.
Puis là, nous, on a quitté les palais de justice. Mais là, moi, je me doutais pas qu'elle retournerait devant le juge. Puis elle vient dire au juge que déclaration de règlement hors cours pour la produire. Le juge dit, est-ce que vos clients sont ici? Non, j'ai effectué, ça s'est fait à grand contre-cœur. Mais j'ai jamais accepté un règlement hors cours. Là. J'ai jamais donné autorisation. Jamais donné mandat pour dire de retourner devant le juge. Puis il va dire au juge, j'accepte 5 000.
Et c'est elle qui a
pris l'initiative. Les deux avocates ont pris l'initiative de retourner devant le juge.
Sur Packagist, on va faire une petite pause musicale et on va revenir vers la suite. Merci. Voilà donc, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Je reprends avec notre invité aujourd'hui, Monsieur Sylvain Paquette. Rebonjour Monsieur Sylvain Paquette.
Rebonjour.
Donc là, on rentre vraiment dans le combat, hein, dans le combat réel. Vous avez quand même mené un combat depuis, moi je dirais même depuis 2003, depuis votre accident, ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore fini, si je ne me trompe pas. Enfin, alors revenons à cette, je sais que vous le 12 présentez, donc vous partez à la cour et après ça vous revenez le 13 et le 13 vous sentez que ça ne fonctionne pas, c'était pas à votre, c'est à votre faveur et vous, l'avocate elle vous demande de mettre le compte, elle vous demande de partir et prendre le temps de réfléchir et de lui répondre sur l'offre que la partie adverse vous offre de 5 000 $, alors que vous réclamez au départ 280 000 $,
oui,
environ là. Alors là on a eu un problème, hein,
oui, mais c'est ça, très très loin. Il manque 275 000 piastres. Hein.
Ouais. Vous partez le 12, 13, je pense que vous étiez un petit peu très triste.
Ouais,
moi, j'ai lu un petit peu comme quoi vous étiez quand même, c'était un cours dur pour vous et tout.
J'étais déboussolé là, je pleurais.
Déboussolé, mais vous avez quand même pensé que pour faire un appel, j'imagine quand même, sur le coup là. Et vous savez que vous avez 30 jours pour faire un appel, si je ne me trompe pas. Et vous avez quand même, à partir du 13 septembre, vous êtes resté jusqu'à 22 avril pour envoyer un courriel à Maître Lecomte pour lui dire je refuse l'offre, je comprends. Explique-nous là.
Oui. Regardez, le 13 mars, Maître Lecomte, elle a reçu le chiffre.
Vous, le 13 mars, vous avez affirmé à Madame, à Maître Lecomte comme quoi vous refusez l'offre.
Oui, j'acceptais.
Vous l'avez dit, je l'accepte pas.
Non, j'ai jamais accepté cette offre.
Non, non. Il y a une différence que je n'ai jamais accepté et je vous l'avais dit à l'avocate que je refuse l'offre.
Oui.
Est-ce que vous l'avez formellement dit?
Regardez, je me souviens pas exactement des mots exacts, mais j'ai jamais accepté, j'ai jamais dit à mon avocate.
Si vous l'avez jamais dit.
J'ai jamais dit. Parce que Maître Vézina, Maître Lecomte, elle dit, bon, prenez quelques jours pour y penser, puis tout ça. Moi, je suis sorti, regardez, je pleurais, je suis sorti de la salle.
Si je prends pour acquis, comme quoi vous n'avez dit ni oui, ni non.
J'ai jamais répondu.
C'est ça. Vous n'avez pas répondu.
J'ai jamais répondu.
Pourquoi vous, entre 280 000 réclamés, vous réclamez 280 000 et vous offrez 5 000. Pourquoi vous n'avez pas catégoriquement dit je refuse l'offre sur le lieu? Pourquoi vous l'avez dit?
Mais parce que Maître Lecomte, elle me donnait la dernière solution. C'est elle qui est d'avocate, c'est elle qui est d'expérience.
Puis elle me donnait. Vous sentiez au mur au coin?
Oui, elle me poussait au mur. Regardez, M. Paquette, vous n'avez pas le choix. Vous devez accepter cette offre-là. Non, j'accepte pas ça.
Non, mais vous l'avez pas dit, j'accepte pas. Vous avez dit, vous êtes resté comme ça, bouche bée ou quoi?
Ouais, bouche bée, puis c'est que mon épouse puis M. Poulain, les autres disaient, ben c'est vrai, accepte, t'es bien mieux ça que rien pantoute. Non!
C'est votre épouse qui vous a conseillé d'accepter?
Oui, mon épouse puis Jean Poulain, ils disaient, regarde, t'es bien mieux d'accepter ça que de rien avoir. Non, j'accepte.
Mais vous êtes convaincu que c'était injuste.
C'est injuste, c'est complètement injuste, ça n'a même pas de bon sens. Il n'y a aucune logique dans ça.
Alors, M. Paquette, vous rentrez chez vous. OK, je comprends. Ouais. Vous restez de 13. C'est quand vous, ou bien Maître Lecomte, vous êtes rentré en contact avec, en quelle date?
Je me souviens pas exactement la date, quand est-ce qu'elle rentre en contact.
Elle vous rappelait? C'est elle qui vous a appelé?
C'est elle qui m'a appelé.
Oui.
Sûrement.
Elle vous a parlé à vous?
Elle m'a parlé à moi, puis bon, mon épouse était là. Moi, comme je vous disais, je me souviens pas exactement la journée et tout ça qu'elle m'a appelé.
Oui.
Mais elle m'a confirmé. Elle a reçu le chèque le 23 mars.
Attends une seconde, là. On va jusque. Alors, le 13, on comprend. Et le 23, c'est-à-dire presque.
10 jours plus tard.
10 jours plus tard, elle a reçu le chèque.
Elle reçoit le chèque avec les papiers.
Et elle vient, elle vous appelle pour dire j'ai reçu le chèque
j'ai
de la partie adverse.
Oui, c'est ça.
C'était quoi votre réponse?
Ma réponse. Gardez Maître Lecomte, j'ai jamais accepté ça.
Vous l'avez dit là, vous l'avez dit formellement que je n'ai jamais accepté ça.
Oui, j'ai jamais accepté ça.
Okay.
Le 13,
ouais.
Pourquoi je l'accepterais aujourd'hui?
Parfait. Et qu'est-ce qu'elle a répondu?
Regardez, je me souviens pas des mots exacts de tout ce qui s'est dit. Discussion.
Vous vous souvenez pas.
Non.
Monsieur Paquette, j'aimerais bien vous poser une question. C'est à partir du 12 ou le 13 mars jusqu'au 23, pourquoi dans cette date-là, pendant cette date-là. Pourquoi vous n'avez pas pris le téléphone et appelé madame pour lui dire, parce qu'elle vous a demandé de réfléchir. Pourquoi vous n'avez pas pris le temps pour lui dire, écoutez, je refuse le montant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Moi, regardez, je ne connais pas toutes les procédures.
Non, mais elle vous a demandé, mais c'est pas grave. Excusez-moi, je comprends, c'est dur un petit peu. Est-ce que vous étiez vraiment enfermé?
Oui, j'étais, regardez, j'étais dans ma bulle, dans ma coquille,
ça a été
dire.
C'était le choc qui vous a...
C'est le choc, ça a été difficile. Puis...
Vous n'avez pas réussi à prendre le téléphone, décrocher le téléphone pour lui dire, mais maître, je refuse carrément. Vous ne l'avez pas fait. C'est pas... OK, donc revenons maintenant au 22 avril, le 23 mars, la communication entre vous et maître Locante pour lui dire, elle vous annonce comme quoi elle a reçu le chèque et vous êtes là à estomper. Je disais, écoutez, là, j'ai jamais accepté. Non, c'est là que vous l'avez confirmé que j'ai accepté. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait après ça? Est-ce qu'elle a retourné le chèque ou elle a fait quoi avec ce chèque-là?
Elle a retourné le chèque. Là, à un moment donné, bon, je sais qu'elle m'a rappelé. Je peux pas vous dire la date.
Ouais.
Là, elle m'a demandé une confirmation par écrit. Moi, j'ai envoyé un courriel.
C'est le
22 avril.
C'est une autre question aussi, je suis désolé de vous la poser. Du 23 mars jusqu'au 22 avril pour retourner avec un courriel. Pourquoi vous avez pris presque un mois pour le retourner par écrit? Pourquoi cette
lenteur? Parce que moi, j'avais dit verbalement, je refusais. Moi, dans ma tête, lui dire verbalement, je refuse.
Et elle vous a demandé de le confirmer par écrit.
Oui, elle me rappelle le 22 avril, puis m'a confirmé une confirmation par écrit.
Oui.
Mais à ce moment-là, ça y prenait ça, une confirmation par écrit, mais verbalement, ça ne se fait pas. Mais sauf que elle d'avoir dit verbalement au juge que j'accepte, sans aucun document signé, c'est valide.
OK, là, je comprends. Alors là, vous êtes devant le fait, vous êtes cuit, comme on dit.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, là, vous lui dites, écoutez, je refuse, je retourne le chèque, blablabla.
Je retourne le chèque, puis là, à un moment donné, j'ai reçu des papiers, j'ai pas les dates, comme quoi, pour homologuer la transaction, comme quoi j'ai accepté une offre de 5 000.
Oui.
J'ai jamais accepté une offre de 5 000.
Oui. Vous faisiez quoi? C'est là que vous avez été en appel ou vous avez...
Ben, c'est ça. Là, je suis allé en désaveu contre elle.
Ouais. Contre votre avocate?
Oui, contre mon avocate, Nancy Lecomte, le 24 février 2019.
Vous avez rencontré quel juge?
J'ai rencontré le juge Michel Désiel.
OK.
Et à ce moment-là, bon...
C'est en quelle date?
Le 24 février 2011.
Alors, depuis 2009 jusqu'à 2011, ça a pris combien de temps?
Oui, avant d'ouvrir
Réouvrir le procès.
Oui.
Qu'est-ce qui est arrivé, là?
Bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bon, si on commence en début de procès, Marie-Ève Vézina, la partie adverse, dit qu'il était dans un cubicule et j'ai strictement parlé avec Maître Lecomte, à la fois à la fin de la journée du 12 mars et au début de la journée du 13 mars, d'où l'importance de son témoignage ce matin. J'aimerais juste spécifier... Ce que je dis ici, ça provient d'un document original qui a été fait par une sténographe officielle, Mme France Asselin.
Oui, voilà.
C'est toute la transcription audio. Et la Cour ajoute à 6 minutes 5, parce que j'ai laissé des audios, fait que j'ai regardé le temps, à 6 minutes 5, le juge ajoute « Alors, ce que je note ici, les parties admettent que maître Maria Vézina a discuté avec maître Lecomte, uniquement en l'absence du demandeur Sylvain Paquette, qui était dans un cubicule. Discussions qui ont eu lieu en fin de la journée du 12 mars. » Le juge allait ajouter au début de la journée du 13 mars.
Oui.
Mais parce qu'il se fait couper la parole par maître Vézina et elle vient dire « Amorce de discussion, monsieur juge, parce qu'il n'y avait pas encore de montant sur la table à ce moment-là. »
On part du 12.
Du 12.
Il n'y avait pas de montant.
Je vous le précise. Donc,
mais ça, je pense que c'est clair, ça.
Oui, c'est clair. Il n'y avait pas de montant.
Parce qu'elle ne vous l'avait pas dit, d'ailleurs.
C'est ça.
Là, on va aller au 13. Hein.
Pardon?
C'est parce que c'était arrivé le 13, Daniel. C'est là qu'il y avait un montant sur la table. Là.
C'est ça. C'est arrivé le 13 au matin.
Oui.
Là, à ce moment-là, la Cour dit « Je comprends que Maître Lecomte n'est pas représenté. Non, j'ai demandé l'exclusion des témoins. Alors, Maître Lecomte et Mme Mona Tardif, qui est mon épouse, sont à l'extérieur. » La seule personne qui, à ce moment-là, quand Maître Vézina a mentionné ça, aucun montant, le seul témoin qui est là avec moi et avec les avocats, André Trudel, c'est M. Jacques Potvin. Jacques Poulain, vous dites. Excusez.
Jacques Poulain, c'était votre employé.
Oui, c'était mon employé que j'avais employé. Le 23 septembre 2003.
Il était comme 2003.
Il était comme témoin. Et à un moment donné, Marie-Ève Vézina, en compte interrogatoire, elle demande à M. Poulain, « Et je comprends que vous étiez... tout très déçu, mais que vous et Mme Tardif, vous aviez dit à M. Paquette, bien, t'es peut-être mieux d'accepter que de rien avoir. » M. Poulain dit, « Oui, mais c'est sûr que lui était pas d'accord du tout avec ça. Sylvain n'était pas d'accord avec ça.
Donc
c'est clair que j'étais pas d'accord avec les 5000 là.
Ouais.
OK. Un peu plus loin là, c'est mon épouse qui vient témoigner. Puis encore là Maria Vizina, il pose, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé tout ça. Mon épouse lui dit c'est moi et Jacques qui essayons qui disait accepte, accepte, accepte. Mais ça n'a jamais sorti de sa bouche.
Vous l'avez jamais, oui.
J'accepte. C'est sûr qu'il n'a jamais dit ça.
Oui. Alors, M. Paquette, et ce qui est important ici, c'est que ce qui est malheureux, si vous voulez, c'est que l'avocate, Maître Lecomte, elle affirme comme quoi vous l'avez dit, oui, j'accepte.
Oui, mais vous allez voir plus loin que Maître Lecomte, elle ne peut même pas le dire.
Elle ne peut pas l'admettre.
Elle ne peut même pas l'admettre que j'ai accepté. Ses propos sont carrément ambigus.
Oui.
Et elle peut même pas le dire.
Est-ce que vous avez quelque chose de cité rapidement comme ça, comme quoi Maître Lecomte, elle a de la difficulté à le prouver, comme quoi.
Oui,
elle a entendu de vous, de
oui,
votre bouche.
Regardez ici, à un moment donné, à la page 68 de cette transcription audio-là, elle dit, mon avocat lui demande, Maître Trudel, et vous dites qu'il vous a dit oui, bien oui, qu'il a accepté, ça doit être un oui, oui, oui. Je m'excuse, mais ça doit être.
C'était pas. Elle peut pas admettre à 100%
ben
que vous l'avez dit.
Après, mon avocat, en tout cas, moi, je dis qu'il y a une petite orientation ici, là. Est-ce qu'il a dit oui, mais je suis pas content? Oui, mais OK d'abord? Ou je le sais pas? Maître Lecomte, elle répond: je peux pas vous rapporter les paroles exactes, mais ça se peut bien que ce soit quelque chose de ce genre-là. OK d'abord ou des choses comme ça. Comme je vous dis, c'est sûr que c'est un peu comme résigné. Maître Trudel, c'était sans équivoque selon vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sa réponse était sans équivoque. En tout cas, ça me fait rire. Maître Lecomte dit, à l'effet que c'était oui ou non. Donc, tu peux pas dire que j'ai dit oui ou non, là. Maître Trudel, il dit oui. Bien, j'aurais jamais avisé le juge si c'était non. Écoutez, là, c'en est loufoque, là, à un moment donné, à quel point c'en est ridicule. Vous l'aviez perçu comme ça? Elle répond oui.
Elle l'avait perçu comme ça. C'est une lecture.
T'as perçu, j'ai dit oui ou non, là, tu ne sais pas. Mais vous ne savez pas si c'est verbal ou qu'il a répondu de façon verbale. Ou si c'est hocher la tête, non, ça, je ne peux pas vous dire. Maître Trudel lui demande, ou si c'est hocher la tête? Vous savez pas si c'est son épouse ou M. Poulain qui aurait répondu pour lui? Non, bien non. C'est pas eux qui ont répondu pour lui. C'est pas eux autres qui ont répondu pour lui. Non, non. Elle est convaincue, c'est pas eux qui ont répondu.
Oui.
Mais elle sait pas si j'ai dit oui ou non.
Oui.
C'est ambigu, ces affaires-là. Ah non.
Mais c'est ambigu, mais ça n'empêche pas que tous les juges, les instants sur la passée, ils l'ont cru.
Ils l'ont carrément cru.
Ils ont rejeté votre...
Oui, je suis allé en appel, là, j'ai pas la date de l'appel, je suis allé en appel de cette décision-là du juge, du juge Michel Désiel.
Oui.
Le juge, après une quinzaine de minutes, je vous dis, le juge Jacques Chamberlain de la Cour d'appel dit, c'est une pure question de fait que j'ai accepté. J'ai rien signé, monsieur juge. J'ai envoyé le tout à la Cour suprême du Canada.
Oui.
Eux ont dit que ma question n'était pas fondée sur une question d'intérêt national ou d'intérêt public. Mais regardez, il y a un ami, M. André... aujourd'hui, c'est un ami, mais à ce moment-là, c'était pas un ami, il ne connaissait pas M. André Bois, qui a les sites Les Magouillards. Il m'a créé un site qui est justiceaveugle.com.
Ouais.
Puis ça fait 41 jours que le site est créé, j'ai déjà plus de 6000 visiteurs, mais ça touche pas l'intérêt public.
Ça, c'est pour la cause.
Ouais. Oui. C'est simplement les faits que je viens de dire ici qui sont énumérés dans ce site-là.
Et ce combat-là, il n'est pas encore fini, hein, je me souviens de ce paquet-là. Vous êtes toujours... qu'est-ce que vous cherchez derrière ça?
cherche la justice, cherche un jugement légal, un jugement loyal.
Et pourquoi aucun juge vous a cru? Il ne vous a pas cru d'ailleurs. Et pourquoi la version de l'avocate est toujours rite? D'ailleurs, même elle est ambiguë. Hein. Vous avez cité quelques exemples qu'on n'arrive pas, elle n'arrive pas à admettre comme quoi elle a entendu de votre bouche comme quoi vous avez admis, comme quoi vous acceptez l'offre de la partie adverse.
Mais si vous vous souvenez, en début, quand j'ai dit comme maître Vézina qu'il n'y a aucun montant sur la table, après avoir entendu notre version, la version de moi, mon épouse, puis M. Poulain, une heure plus tard, elle vient dire, là, j'ai un petit problème, M. le juge. C'est parce que je pourrais être en situation de témoigner. C'est parce que là, vous venez produire deux témoins qui viennent contredire ce que maître Lecomte a dit le 12 mars et moi. Je serai en mesure de témoigner là-dessus. Deux pages plus loin, elle ajoute, moi, ce que je viendrais dire, c'est que le 12 mars au matin, on a effectivement réitéré une offre qu'on avait faite dans les semaines précédentes de 5 000. Mais je m'excuse, mais parce que dans sa version, sa première version, il n'y en a pas d'offre. Il n'y a aucun montant, le 12. Mais là, ici, elle dit qu'elle a réitéré une offre le 12 mars au matin.
Le 12 mars, il n'y avait pas de question pour l'offre du tout. Là,
mais le 12 au soir, il n'y en a même pas.
Même pas, oui.
L'offre est arrivée le 13 au matin. Mais encore là, dans le jugement, regardez, dans le jugement du juge Désiel, au paragraphe 14, OK?
Oui.
Le juge Désiel dit 13. Bon, le demandeur déclare qu'il n'a aucune offre faite avant le procès. Il nie que la première journée du procès. Au texte 14, ce n'est que le matin du 13 mars que Mme Lecomte, son avocate depuis l'institution des procureurs, l'informe. Donc, depuis la voix de Mme Maître Vézina. Maître Vézina, le juge dit au paragraphe 3 de 14.3, dit que Mme Vézina ne fait d'abord aucune offre le matin, mais qu'elle offre ensuite 5 000. Donc, on parle du 13 mars, là. On ne parle pas du 12. Mais si on regarde au paragraphe 26 et 43 de mon jugement, elle en discute avec le demandeur et confirme que l'offre de 5 000 est toujours sur la table. Elle lui suggère d'y penser et de revenir le lendemain matin. Oui. Parce qu'il n'y en a pas le 12. Et au paragraphe 43, il dit, la preuve démontre, donc le juge a étudié la preuve démontre que le demandeur est au courant d'une offre de 5 000 dès l'ouverture du procès.
Du 12, c'est ça? C'est
le matin du 12 mars. Oui. Il sait que cette offre est toujours sur la table lorsqu'il quitte le soir du 12 mars avec son épouse.
Oui, et c'est faux.
C'est faux.
Oui, mais avec tout ça, tout ce que vous apportez aujourd'hui...
J'ai envoyé ça à la magistrature.
Oui.
Il n'y a pas de matière à porter plainte contre le juge. Il n'a pas erré dans son jugement.
Oui.
C'en est fou.
Vous êtes devant un mur, c'est ça? Vous foncez dans un mur et ça...
Tu sais, je ne veux pas être impoli, mais moi, je suis un petit cul, je suis un trou de cul. Oui,
c'est ça.
T'sais? Puis va-t'en chez vous, puis ferme ta gueule, puis accepte le règlement.
Quel sentiment que vous avez aujourd'hui devant cette... C'est le sentiment d'injustice.
Le sentiment d'injustice, puis quand je passe devant un palais de justice, là, juste le goût de vomir quand je vois ça. Il annonce pignon sur rue, palais de la justice.
Ouais.
C'est un aberrant. Hein.
Mais vous savez que vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y a des
centaines, sûrement, il doit en avoir des milliers, mais le monde ne parle pas. Le monde ne dit rien, puis on l'accepte, puis on ferme notre gueule, puis on vit avec.
Je sais aussi, M. Paquette, que cette histoire-là n'est pas finie. Vous n'êtes pas, même si toutes les murs sont dressés devant vous, mais vous continuez, vous frappez un petit peu fort.
Ouais.
Et je sais que maître...
Vous avez
continué à lui envoyer des messages.
Ouais, j'ai envoyé des courriels.
Quelle sorte de courriel vous avez envoyé?
Pas des courriels de menace. Là, on dit que je menace, que je l'intimide.
Ça, c'est la dernière fois que les policiers sont tombés chez vous, là?
Ouais, le 21 février, 8 gros gaillards de 200 livres.
Le dernier, c'est le février, là.
Ouais, elle avait dit le 21 juin.
Mais ce juin-là.
2012, oui. L'autre semaine, là.
Ouais.
Ils sont venus chez nous, 8 gros gaillards sont venus chez nous, me lire mes droits.
Ouais.
Puis ils ont saisi mes ordinateurs parce qu'ils disent que j'envoie des courriels que je les.
À mettre le compte.
À mettre le compte.
Mais est-ce que dans les courriels, pourquoi c'est un dossier qui est presque clos? Pourquoi vous continuez à envoyer?
Je veux des réponses. Pourquoi qu'elle agit comme ça?
Mais est-ce que ce n'est pas une sorte d'intimider?
Non, mais c'est pas une intimidation. Je veux des réponses. Mais elle n'a jamais répondu.
Mais elle ne vous répondra pas. Elle ne veut rien savoir de vous.
Moi, c'est ça. Jamais.
Pourquoi vous continuez à lui écrire?
Mais moi, je me dis, je vais avoir une réponse, puis j'envoie des courriels. Mais est-ce que ces courriels-là, je les envoie à la bonne adresse? Parce que j'ai jamais de réponse.
Et vous continuez à envoyer. Combien de courriers vous l'avez envoyé jusqu'à présent?
Je ne pourrais pas vous dire combien de courriers. J'en ai envoyé plusieurs. Combien, je ne pourrais pas vous dire.
Mais est-ce qu'il y a des menaces dans la...
Non, il n'y a aucune menace. Moment. Moi, c'est juste
pouvez-vous nous dire quelle sorte de courriel vous écrivez quoi?
C'est les courriels des faits de qu'est-ce qu'elle dit. Puis à un moment donné...
C'est de l'expliquer, de le convaincre qu'elle a erré, qu'elle a pas raison?
Ouais, qu'elle a pas raison. Puis que, à un moment donné, j'ai envoyé même un courriel que Maître Vézina, qu'elle s'est fait planter. Elle s'est fait planter par Maître Vézina.
Ouais.
Parce que Maître Vézina, elle dit le 30 janvier 2012 que Maître Lecomte, là, elle parle du 12 mars.
Oui.
Elle parle du 12 mars, que Maître Lecomte s'est approché près de moi et m'a demandé si on n'avait pas une offre à lui soumettre, car nous perdions tous notre temps. Mais là, elle est convaincue, le 12 mars, que Maître Vézina, que Maître Lecomte, on perd notre temps. Mais moi, j'aimerais juste savoir, par contre, il y a une chose que Maître Lecomte, elle vient dire, le 13, au juge, que nous, on plaidait un partage de responsabilité. Donc, elle est convaincue qu'il y a un partage de responsabilité qui doit être fait.
Ah, je comprends. Mais ça, tout, je comprends. Je sais que vous êtes allé plusieurs fois devant plusieurs instances et tout oui. a été refusé. Comme je l'ai dit bien, il y a un mur devant vous. Vous ne pouvez pas le franchir, malheureusement. Et vous continuez quand même à écrire à cette avocate-là, et malheureusement, le résultat, vous voyez que vous risquez aussi d'être devant un tribunal accusé d'actes criminels maintenant. Et vous savez que la justice, comme vous l'avez bien précisé, c'est dur. Alors, est-ce que c'est vraiment le sentiment de l'injustice qui vous a poussé aussi à continuer dans cette voie-là, qui ne vous donne malheureusement rien, finalement?
Ouais.
Au contraire, elle peut vous donner des ennuis.
Ben, c'est ça. Ça me donne des ennuis présentement, parce que le Maître Lecomte a déposé...
Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir continué à écrire à Maître Lecomte?
Oui, je le reconnais. Non,
vous regrettez, j'ai dit?
Oui, si je regrette... Oui, à un moment donné, à quelque part, je peux pas dire que c'est un regret. C'est que moi, je veux avoir des réponses, mais est-ce que les courriels que j'ai envoyés, je l'ai envoyé à la bonne adresse?
Oui.
J'en ai aucune idée.
Non, mais vous l'avez quand même envoyé. Ça
oui, mais j'ai jamais eu de réponse. Oui. Tu sais, à un moment donné, quand on adresse une réponse à quelqu'un...
Comment vous allez défendre devant un juge qui vous demandera pourquoi vous continuez à écrire à Maître Lecomte alors qu'elle n'est plus votre avocate? Vous allez lui répondre quoi, monsieur?
Je ne sais pas quoi lui répondre.
Vous ne savez pas, justement.
Je ne sais pas quoi lui répondre. Écoutez,
mais ça, c'est des choses qui nous dépassent. Des fois, c'est le sentiment de l'injustice qui nous pousse vraiment à agir comme ça.
Ouais.
Pourquoi il n'y a pas de justice derrière tout ça?
Ouais.
Alors, j'espère que le juge qui va vous écouter, il sera, je dirais, quelqu'un de sage, parce que derrière ça, il y a une blessure, une grande blessure au fond de vous-même, malheureusement, parce qu'on ne peut jamais être à revenir comme on a été avant.
Jamais, c'est sûr, je ne reviendrai jamais comme j'ai été comme avant. Puis, regardez, la nuit, là, puis j'ai pas l'intention de mourir, là, mais la nuit, je fais des rêves. Comment me suicider?
Oui, je comprends.
Je rentre des sentiments, puis comment me suicider? J'ai pas envie de mourir, partout.
Oui. C'est triste, c'est vraiment triste, là. C'est vraiment triste comment c'est. J'ai pas envie de dire des gros mots, là, parce que ça me dépasse. Pourquoi on n'écoute pas un citoyen? Pourquoi vous, depuis 2003, vous avez un combat, je me suis rendu aujourd'hui en 2012, pourquoi?
Je sais pas, on dirait.
Vous allez vivre et peut-être mourir avec ce sentiment-là.
Ouais,
pourquoi
peux pas,
l'injustice?
Je peux pas le prouver, mais on dirait des belles petites enveloppes brunes, hein. On en voit partout, hein.
Ouais, mais moi, ce qui me dérange encore plus, c'est que vous n'êtes pas le seul dans ce combat-là.
Ah non, c'est ça.
Et je vous jure qu'il y a énormément de personnes et c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Et moi, je vous remercie énormément d'être ici sur ce plateau-là aujourd'hui pour dénoncer l'injustice, justement. J'espère aussi que Maître Lecomte, elle est à l'écoute cette émission-là. Peut-être elle aura d'autres réactions que celles qu'elle prétend prendre. Alors...
Mais je veux juste ajouter...
Avez-vous quelque chose à dire?
Je veux juste ajouter, je ne sais pas si elle écoute ou pas, mais moi, mon sentiment à moi, là, que c'est une personne de très, très, très de mauvaise foi. Qu'elle a fait un travail dérisoire, un travail d'incompétence. Excusez, je ne veux pas être impoli, mais un travail de merde. Puis, elle s'est aperçue qu'elle a fait une mauvaise job. Puis que là, elle essaie de me refiler ça en disant que j'ai accepté une offre de 5 000.
Oui. Et surtout, 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 autour de tout ça, elle ne se rend pas compte du mal qu'elle a fait aussi, hein, parce que derrière ça, il y a un mal aussi qui est fait.
Oui.
Et je ne sais pas combien vous allez endurer tout ce mal-là.
Je ne sais pas.
Malheureusement, Monsieur Paquette, c'est tout le temps qui nous a été accordé pour cette émission. Je vous remercie à mon nom et à nom de notre équipe d'avoir pris l'initiative de venir témoigner et dénoncer le travail de cette avocate-là, en plus précis. Permettez-moi aussi de remercier également Madame Suzanne Charlon de Radio Centre-Ville d'avoir veillé à la technique du son. Elle est devenue un soutien primordial pour cette émission. À Radio Centre-Ville aussi, chers auditeurs, on dit merci de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine, un même jour, même heure, avec un autre épisode d'Injustice. Au revoir.
Chez moi, devait être 9h15 au soir. La mi-décembre, en ce moment, faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue. Sonne, j'ai à peine aperçu l'autopatrouille qui accélérait. Une fois dans mon char, je démarre puis tourne à gauche. Direct, je rentre dans la ruelle, me stationner derrière la piole. J'chète dans mon rétro, qui que je vois pour la popo. De face, de banane, comme s'il voulait prendre en photo. À peine le pied au sol, on me crie.
Reste dans ton auto,
oui,
reste dans ton auto.
Mais qu'est-ce que?
Reste dans ton auto.
Ok, j'ai compris, c'est toujours mieux de rester poli. Mais pourrais-je me m'enquérir de vos motifs pour me coller? Écoute, on t'intercepte, on s'est une capuche sur la tête. Pour ma part, de rétorquer, mais c'est l'hiver qui fait fret. Je vais te donner un indice, présentement il fait moins 10. Difficilement est la caisse, mais bon, il fallait qu'il insiste. Yo, tout ce que je dis est vrai, si je mens à l'indice. En fait, à vrai dire, on n'a aucune idée de qui. On veut seulement t'identifier, pourquoi te sentir attaqué. Tu veux savoir pourquoi? First, tu dis que tu connais pas, mais connais-tu le voisin d'en face ou bien la petite madame d'en bas? Non. Connais-tu chaque citoyen de la ville?
Non.
Alors pourquoi susciterais-je plus son intérêt? Qu'est-ce qui me différencie en telle ou telle personne ici? Qu'est-ce qui dans mon apparence fait que tu me demandes mes IDs? Apparemment perplexe, il me répond je pas trop. Profilage, la vie n'est fait qu'avec l'aval de ses patrons. Ici à Québec, ça fait partie de la tradition. Laisse-toi coller, ferme ta gueule, surtout faut pas poser de questions.
Non, c'est pas vrai, faut que tu poses des questions. Mais reste poli, reste calme. Prends le matricule en note, prends la date. Comme ça tu montes un dossier, mais reste calme.
Bah souvent elle s'excite, dès qu'il pense au sauton. Va demander à Bixi si t'as pas son pose sur le bouton. Pourtant une ville tranquille, donc ils n'ont pas grand chose à faire. Beaucoup de jeunes policiers sont bien trop chauds à battre le fer. Tout frais sont pris du four, 22 ans et demi. Une page, une arme à feu, mais si peu d'expérience de vie. Y'a pas de gang, juste un prétexte politique. Tout ce qu'ils veulent sur le budget afin de payer les temps sub. C'est tellement irresponsable de la part de l'état-major. Stigmatisé, pop et black, je leur envoie le doigt majeur. Adepte la répression, ils pensent qu'ils vont tout régler seuls. Ne leur parle pas de prévention, c'est un concept qui déboussole. Mais bon, pour être honnête, ils sont pas tous des brutignards. Faut pas généraliser, même si c'est plutôt dur d'y croire. Et ce que je te raconte là, les gens l'ont vécu par milliers. Mets ton poing dans les airs, si jamais ça t'est familier.
Si jamais ça t'est familier.
Cours, cours dans la nuit, petite âme endormie, tu es ici. Cours, cours dans la nuit, mon ami, mon âme, ma souris. Cours, cours, cours toujours. Vers quelle lumière tu t'envoles? Dans quel univers tu te plais? Asia, donne que réussir.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30, sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic... Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Loto-Québec présente la 26e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 10 au 22 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. En concert d'ouverture, les incontournables Niarwa Diffusion, le très attendu Prince du Rail Fodel et un fabuleux plateau d'artistes engagés, Madagascar Wake Up. Plus de 90 concerts et activités au programme. Pour plus d'infos, festivalnuitdafrique.com.
Zouk, Lambada, Bossa Nova, Fado, Hip-Hop, Hagamofi, Mala, Hango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette Française, Soukous, Honk Francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.